Religion du Monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire de Religion du Monde ce dimanche, Charles de Foucault, l'ermite du désert algérien, à l'occasion de sa canonisation à Rome ce dimanche. Et puis nous quitterons le Hogar pour la Thaïlande, plus exactement le royaume de Siam, avec l'exposition « L'Évangile au pays du sourire » qui retrace 3 siècles et demi de présence des missions étrangères en Thaïlande. Charles de Foucault, mort assassiné le 1er décembre 1916 à Tamanrasset, sans avoir évangélisé ni créé de congrégation religieuse, est canonisé ce dimanche à Rome. Il avait été béatifié par Benoît XVI en 2005. Mais qui était Charles de Foucault? Pourquoi tant de vie entre l'officier de cavalerie aux nombreuses conquêtes féminines, l'explorateur et le géographe au Maroc, l'homme qui, la foi chrétienne recouvrée, devient moine, entre chez les trappistes, part pour la Syrie, puis recherchant un idéal d'abnégation et de radicalité dans la vie religieuse, quitte la trappe pour devenir ermite, d'abord en Palestine, puis dans le Sahara. Et devenu linguiste, il publiera le premier dictionnaire touareg français. Alors, qui était Charles de Foucault? Qu'y a-t-il derrière le regard de l'homme à la bure blanche où un Sacré-Cœur rouge est cousu au niveau de la poitrine? C'est à cette question qu'a tenté de répondre notre invité Christophe Maury, qui publie Charles de Foucault, pèlerin de l'éternel, aux éditions Pygmalion. Christophe Maury, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes critique de théâtre, vous êtes romancier, éditeur, homme de radio. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire un livre, un nouveau livre, j'allais dire, parce qu'il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Sur Charles de Foucault.
C'est peut-être mon passé, mes jeunes années de scout, où Charles de Foucault était forcément l'un des héros de notre jeunesse. Vous savez, Charles de Foucault, c'est incroyable. Il y avait eu cette première biographie de René Bazin en 1921. Ensuite, on ouvre qui va donner beaucoup de vocations. Dès 1923, l'ouverture de la cause pour la postulation. En 1936, vous vous souvenez, l'appel du silence de Léon Poirier. Et puis, en BD, en 1959, en BD, Spirou. Et donc, c'est quand même le saint qui a eu le plus de bandes dessinées sur sa vie. Et enfant, j'ai lu les bandes dessinées de Charles de Foucault. Donc je me suis dit, ce type est intéressant, je vais le suivre. Et puis, à force de travailler, de tout lire, je me suis aperçu que c'était pas vraiment la légende qu'on nous racontait, c'était autre chose, mais qui est tout à fait sain et canonisable.
Tout à fait canonisable. Bon.
Bien je ne remets pas en cause la sainteté de Charles de Foucault, loin de là.
Bien que, effectivement, votre livre, Christophe Maury, eh bien, dévoile, déface... Allez, est-ce qu'on peut dire sombre? En tous les cas, moins sympathique que la légende autour de Charles de Foucault.
Plus commune, vous parliez de sa vie de patachon lorsqu'il était militaire. Non, il n'a pas eu une vie de patachon. Il a été fiancé à Mademoiselle Titre, qui n'avait de titre que le nom. Donc la famille a refusé qu'il se marie avec Mademoiselle Titre. Et Mademoiselle Titre, qui mourra très très vieille, dira « Nous avons eu des fiançailles fort chrétiennes puisque nous allions à la messe tous les jours ». Alors qu'on ne me dise pas qu'il avait une vie de patachon et qu'il n'allait pas à la messe, vous voyez. Bon, donc on n'a pas de preuves, sinon il aurait laissé des bébés.
À l'époque. On ne le sait pas toujours, ça.
Non, mais à l'époque. Ça,
on ne le sait pas toujours. Est-ce que finalement, c'est cette vie... Alors, peut-être que le terme est un peu fort, erratique, parce que c'est un homme qui a plusieurs vies dans sa vie... qui vous a finalement intrigué?
Oui, le parcours très sinueux, si vous voulez, c'est un peu comme un arbre de Noël. Vous voyez, il y a des grandes branches comme ça, et puis ça monte, et au bout d'un moment, ça arrive à l'étoile. L'étoile, c'est le grand moment de la conversion. On est en plein désert, on est en 1908. Là, il fait un burn-out pas possible, il est à Tamanrasset, et il ne se nourrit plus. Moussa, le chef des Touaregs, fait venir du lait de chèvre à 40 km au nord de Tamanrasset, pour essayer de nourrir ce pauvre homme qu'on appelle le marabout blanc, qu'on appelle le frère universel, parce qu'il est là, il est présent, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il est présent. Et finalement, c'est à partir de 1908, il va recevoir un dromadaire chargé de potage magui, de cornets de bif et de beaujolais, avec un mot, la pénitence n'a jamais été l'école du suicide, signé La Périne. Et de ce mot d'homme, de ce mot de Saint-Cyrien qu'il était, il va devenir enfin le père de Foucault. Et il va écrire à Marie de Bondy, sa cousine bien-aimée, « Je vais voir mes paroissiens ». Et c'est à ce moment-là qu'il est le père de Foucault, c'est-à-dire cet homme.
8 ans avant sa mort.
Voilà. c'est-à-dire les dernières années. Et c'est là où il est avec les Touaregs. Il va revenir en France pour faire toute une série de conférences sur les Touaregs. Il va apprendre aux femmes Touaregs à se servir d'une aiguille à l'européenne pour savoir coudre, pour pouvoir commercialiser ce qu'elles font de leurs mains et pour pouvoir avoir un peu d'indépendance.
Un métier, oui.
Un peu d'indépendance et un peu d'argent. Et il va être vraiment le frère universel, cette lumière en plein désert, mais uniquement les 10 dernières années de sa vie.
Oui, parce qu'il n'aura pas créé de congrégation comme il le souhaitait. Mais là, on va faire un grand flashback quand même, parce que là, vous parlez de l'année 1908, c'est-à-dire 8 ans avant sa mort.
En plein désert, là.
En plein désert. Bon, mais sa conversion, enfin, vous parliez de conversion tout à l'heure en 1908, c'est bien avant sa conversion.
Sa conversion officielle.
Voilà. On va revenir déjà à son arrivée en Algérie.
Oui.
Il arrive en 1901, c'est bien cela ?
1901.
Hein, voilà. Alors, mais avant, il y a eu tout un chemin ou tout plein de chemins.
Attendez. Avant, quand il est militaire, il apprend en 1881 que son régiment est engagé dans une action dangereuse en Algérie. Il abandonne tout. Il demande sa réintégration à l'armée parce qu'il avait décidé de la quitter. Et il arrive en Algérie. Là, c'est une gifle de lumière. Il est fasciné par les odeurs, les saveurs, les gens, et il est fasciné immédiatement par l'islam. Qu'est-ce qui le fascine dans l'islam ? 1. La soumission à Dieu. Nous sommes soumis à Dieu, dit le Coran, et c'est naturel d'être soumis à Dieu comme les plantes sont soumises au soleil, dit Charles de Foucault.
Parce que lui, il est soumis à Dieu, et puis c'est un militaire. Donc c'est un homme qui connaît la soumission.
Oui, c'est un homme d'ordre. Hein. Bon. Donc, 1, la soumission. 2, la foi est simple. Le Coran est simple. Il est pratiquement décrit d'une seule main, alors que la Bible, il y a 77 livres dedans, donc ça fait 77 styles narratifs différents. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a une unité de style dans le Coran qui va le fasciner. Il va lire le Coran. Ensuite, il y a la prière, 5 fois par jour. Ces hommes et ces femmes qui, 5 fois par jour, s'inclinent à l'appel du muezzin. Et enfin, l'exemplarité avec l'unité des hommes devant Dieu. Donc, ces 4 points, la soumission, la foi simple, la prière régulière et l'exemplarité, font que l'islam est pour lui une révélation extraordinaire dans son mode de fonctionnement et dans sa façon de vivre en communauté. Donc, il va être tout à fait attiré. Mais attention, il est très alsacien. Hein, et c'est très important parce qu'il est né à Strasbourg. Ensuite, ses parents sont à Wissembourg. Et ses parents meurent lorsqu'il est à Wissembourg. Et il va être élevé à Nancy par le colonel de Morlaix, son grand-père, qui a déjà 70 ans. Pourquoi ? Parce que on est en 1870, c'est-à-dire que l'Allemagne a repris l'Alsace. Et c'est ce qui fait que, en étant à Nancy, il va toujours avoir le paradis perdu qui sera l'Alsace et qui sera piqué par les Allemands. Donc, en 1916, il va écrire à son ami Pétain, qui était à Saint-Cyr avec lui, en lui disant « Je veux être aumônier à Verdun ». Pétain lui dit « Non, reste là où tu es ». Et en 1916, toujours, il va avoir des armes, des fusils et des munitions dans son borge. Il va écrire à Castres, aussi un ancien Saint-Cyrien, « J'ai enfin des fusils gras et des munitions, ça nous rappelle notre jeunesse ». Et pourquoi il va être assassiné ? Parce que les Razous cherchent les armes.
Donc
et
les Razous, c'est-à-dire, ce sont des bandes armées.
Des bandes armées qui vont venir dans Ataman Rasset, dans le Borge, donner le mot de passe, parce qu'il faut un mot de passe. Et lui, il est confiant, il ouvre la porte, il est tapé, etc.
Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai pu lire assassiné, abattu par un islamiste, ça n'a rien à voir.
Pas du tout, c'est un garçon de 15 ans. Les Razous rentrent dans le Borge, mettent un foutoir pas possible, parce qu'ils jettent tous les papiers en l'air, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Ils cherchent les fusils et les munitions. À ce moment-là, il y a 2 méharistes qui arrivent dans la nuit, des coups de feu sont échangés, les 2 méharistes meurent. On sait que tout de suite, l'armée française va arriver. Alors, il y a un moment de panique. Charles de Foucault était à ce moment-là à genoux. Et en joue, et c'est un gamin de 15 ans qui le tient en joue, parce qu'on a besoin d'une sentinelle facile. Et au moment des coups de feu, Charles va vraisemblablement se retourner, reconnaître le gamin qu'il connaît, puisque tout le monde se connaît à Ataman Rasset, et le gamin a peur, et à ce moment-là, tire. Et la balle ira dans l'œil. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il s'est retourné, c'est qu'on le sait par l'autopsie rapide.
Bon. Et donc
ce n'est pas du tout ni un martyr, Ni un assassinat islamiste, tout ce que vous voulez. Non, c'est un fait divers. C'est un fait divers. Il meurt sur un fait divers. Je pense que si Moussa l'avait pris en joue, mais il n'aurait jamais pu le faire, puisqu'il y avait une grande amitié entre le chef des Touaregs et Charles de Foucault, si Moussa l'avait pris en joue, il n'aurait jamais tiré.
Je reviens sur les raisons, Charles Maury, qui ont conduit Charles de Foucault à venir en Algérie. Il connaissait le Maroc. Là, en tant que géographe, hein, en tant qu'explorateur, il avait connu la Palestine. Là, c'était en tant que moine, hein, à la trappe, ouais. On peut dire ça comme ça. Mmh. Il quitte la trappe pour des raisons d'ailleurs obscures un peu. Il trouvait qu'il n'y avait pas assez de discipline à la trappe. Qu'est-ce qui a motivé son départ de la trappe ?
Il y a eu un changement de règlement comme quoi on avait le droit de mettre de l'huile d'olive dans la salade.
Non, sérieusement, c'est pour ça qu'il a quitté la trappe.
Et il va dire, nous sommes trop pauvres pour les riches et trop riches pour les pauvres. Et il écrit à Marie de Bondy... Je savais dès le premier jour que ça ne conviendrait pas. Il y a passé 8 ans.
Bon, et ce n'est pas assez radical pour lui.
Non.
Donc, il veut devenir à ce moment-là ermite. Oui. C'est pour ça qu'il arrive en Algérie. C'est pour être ermite et pour aussi évangéliser.
Alors...
Non, ce n'est pas si clair que ça.
C'est compliqué. Il entre à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Il ne voulait pas être prêtre. On va le faire prêtre et on l'envoie à Rome. Ça va durer que 3 mois parce qu'il ne sait pas le latin. Enfin, c'est très compliqué. Bref, il revient à Notre-Dame-des-Neiges. Il veut être le père abbé toujours. C'est lui qui veut être le chef toujours.
Bon, oui, donc c'est militaire là qui parle.
Oui, donc au bout d'un moment, on lui dit ça ne va pas le faire. Et il va partir pour une trappe beaucoup plus pauvre à Agbès en Syrie, on l'a vu. Et puis ensuite, il va rêver toujours de Nazareth. Il va être à Nazareth. Puis finalement, il retourne à Notre-Dame-des-Neiges et il est ordonné prêtre en 1901.
Notre-Dame-des-Neiges, donc, c'est en Ardèche.
En Ardèche. Mm. Et en septembre 1901, on lui dit, ben écoute, va à Alger et puis tu verras les Pères Blancs.
C'est ça qu'ils sont installés avec l'archevêque d'Alger,
Monseigneur
de la Vigerie.
Monseigneur de la Vigerie. Et il arrive là, il veut être le chef.
Il veut toujours être le chef,
oui.
En fait. Et c'est là où c'est contradictoire.
Ah bien sûr. Parce qu'il parle toujours d'enfouissement, d'humilité, etc. Et à chaque fois, il dit, je veux être le chef.
Et d'ailleurs, il y a une phrase, moi, qui m'a marquée au début de la deuxième partie de votre livre, la partie algérienne, j'allais dire. C'est la phrase de Georges Bernanos que vous mettez en exergue, hein, qui est tirée du dialogue des Carmélites. « À vouloir trop descendre, on risque de passer la mesure. Or, en humilité, comme en tout, la démesure engendre l'orgueil. Et cet orgueil-là est 1000 fois plus subtil et plus dangereux que celui du monde qui n'est souvent qu'une vaine gloriole. » Ça lui s'applique bien à,
ça s'applique bien à
Charles
de Foucault.
Foucault,
et
hein.
Oui, l'abbé Huvelin, qui est vraiment le saint de l'histoire, l'abbé Huvelin qui est vicaire à Saint-Augustin, l'abbé Huvelin qui le conduit toujours,
qui l'accompagne,
il dit, mais attendez, vous déconnez. Il dit, mais j'étais effrayé, ne prenez personne dans votre ordre. Je suis effrayé par le règlement que vous avez écrit. Et il lui dit, mais calmez-vous, surtout calmez-vous. Et il est très angoissé, Huvelin, de voir que Foucault, quand il est à Nazareth en 1900, il veut être en otage pour permettre à une veuve qui a des enfants, qui est à l'hôpital, qui ne peut pas payer l'hôpital, pour lui permettre de sortir de l'hôpital, il veut se mettre en otage. Bon, il arrive en Algérie, il commence par racheter des esclaves. Oui, l'esclavage était aboli, mais il y avait des esclaves en Algérie à cette époque,
il
faut le savoir.
Il reprochait à la France de ne rien faire, de ne pas avoir effectivement
abrogé l'esclavage. Alors, il reproche
l'esclavage.
À la France
aboli l'esclavage.
De ne pas abolir dans les faits l'esclavage. Et donc, il va acheter 2 esclaves. Il achète ces 2 esclaves pour leur rendre la liberté et les convertir. Et il écrit à Huvelin, vous êtes assis, « Lorsque l'un sera baptisé, vous serez le parrain et Marie de Bondy, ma cousine, sera la marraine. » Enfin, excusez-moi, mais c'est complètement naïf, c'est complètement...
délirant, faut le dire à certains moments.
Délirant, il faut le dire. Et au bout d'un moment, il se rend compte. Mais ce n'est la vraie conversion pour moi, 1908. Il se rend compte qu'on ne peut pas évangéliser en islam. Ça sert à rien.
Et dans le désert.
Seule l'exemplarité et l'amitié pourront faire, et donc le partage, pourront faire une amitié qui permettra, alors Il met en cercle à la fois des militaires et des locaux, et il prend un chapelet, il enlève la croix du chapelet, et on dit dans le chapelet « Mon Dieu, je vous aime, mon Dieu, je suis aimé, mon Dieu, je vous aime, mon Dieu, je vous aime ». Et quand et les musulmans et les chrétiens disent la même chose, que l'on est aimé de Dieu et que l'on aime Dieu, eh bien forcément, ça crée une fraternité.
Là, le dialogue islamo-chrétien, ça marche.
Et là, ça marche. Et donc, c'est ce que Charles de Foucault va réussir à faire. On parlait de l'Allemagne tout à l'heure. Pendant la Première Guerre mondiale, la Turquie, alliée de l'Allemagne, va reprendre le désert par la religion islamique et contre la France. Et à ce moment-là, l'islam va devenir un ennemi pour le jeu politique et donc, d'une certaine façon, un ennemi de Charles de Foucault militaire. Mais là, il a son cœur qui se fracture parce que il ne peut pas être ennemi de ces familles de Touareg qu'il connaît et qu'il héberge quand il passe les
voir. Oui, parce qu'il craint effectivement, c'est que la Turquie, alliée de l'Allemagne, islamise les populations conquises.
C'était voulu comme ça.
C'était voulu comme ça. Donc, en tout cas, il le vivait comme ça. Et à ce moment-là, il ne regarde plus l'islam de la même façon. Et de même, il y a un passage du livre qui est assez intéressant où il écrit que l'islam pourra être un levier. Ça, c'est autre chose. Mais ça y a un rapport quand même. Pourrait être un levier dans la révolte des peuples autochtones parce que, précisément, ces peuples pourront se révolter parce que trop pauvres ou trop, etc. Et là, à ce moment-là, il voit dans l'islam, c'est intéressant, un levier pour une révolte.
Alors, il ne voit pas l'islam comme un levier politique, mais il voit comme un levier communautaire. C'est-à-dire que lorsqu'une communauté est à la fois soumise à Dieu avec une foi simple, une prière régulière et une exemplarité, ça ne peut que resserrer les liens dans la communauté. Or, la religion religere, ça veut dire qui relie les choses. Et c'est une vraie religion, l'islam, qui relie les choses, qui relie les êtres entre eux. Eh bien,
il y aura un sursaut communautaire, en fait.
Exactement. Et c'est là où, au bout d'un moment, le pouvoir, quel qu'il soit, est forcément renversé par rapport à la force des gens reliés entre eux, de cette communauté. Et ça, il l'a très bien compris, Foucault.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Christophe Maury pour son livre « Charles de Foucault, pèlerin de l'éternel » publié chez Pygmalion. Un peu d'histoire encore, lorsque Charles de Foucault arrive en 1901, il arrive à Béni Abbesse et dans une période où il y a un véritable élan missionnaire. Ça, on ne peut pas extraire l'expérience Charles de Foucault de cet élan missionnaire qui remonte au XIXe siècle, dans la suite de la Révolution française.
Tout à fait. Et avec l'idée de ces gens-là qui rêvaient d'être martyrs. Quand il recrute frère Michel, il lui dit « Est-ce que tu es d'accord pour avoir la tête coupée ?» Non mais attendez, ça c'est un avenir, avoir la tête coupée. Et alors donc, il y a cet élan missionnaire avec cette idée du martyr, c'est-à-dire qu'on va aller être missionnaire jusqu'à se faire manger par les crocodiles.
Vous voyez, ça fait partie de la mortification.
Ça fait partie de la mortification, ça fait partie du don total de soi, ça fait partie de la croix à porter, ça fait partie de l'acception,
de
l'adhésion à la passion du Christ, une vision complètement doloriste, et les missionnaires. Sauf les jésuites, sans doute, parce qu'ils sont bien préparés à cela, mais les missionnaires, de façon générale, à la Charles de Foucault, partent un peu de façon...
À
l'aventure et un peu tête brûlée. Alors, il avait quand même l'avantage d'avoir eu ce parcours de 11 mois de géographe dans le Maroc et de cartographier le Maroc, vous savez, qui était déguisé en rabbin juif. Il suivait Mardoquet, il avait un petit carnet de 5 cm dans la manche pour pouvoir prendre des notes. Donc il avait ce goût de l'aventure. Ensuite, il y avait le goût de l'envie d'être complètement soumis et d'être complètement
enfoui
comme Jésus à Nazareth. Enfin, ça, c'est une idée qu'il a, parce que personne ne parle de l'enfouissement de Jésus à Nazareth.
Tout le contraire, même.
Non, l'enfance de Jésus Jésus à Nazareth était plutôt une enfance très heureuse, très joyeuse. D'ailleurs, il n'y a tellement pas d'histoire que nul évangéliste n'en parle, sauf Saint Luc un peu naturellement. Et donc, il est dans cette idée de tête brûlée, il est dans cette idée d'enfouissement. Et il va faire plusieurs tournées chez les Touaregs grâce à la Périne qui fait des tournées dites d'apprivoisement.
La Périne, donc, c'est un...
Le commandant La Périne, voilà. Commandant des armées françaises en Algérie. Et il va chez les Touaregs, là où aucun prêtre n'a pénétré avant lui, chez eux. Alors, il va faire un catéchisme qui s'appelle « L'évangile raconté aux pauvres nègres du Sahara ». Sikh, le titre.
Ah oui, c'était les mots de l'époque. Oui.
C'était les mots de l'époque, mais on sent déjà que on peut pas arriver avec une espèce de condescendance dans les, même si ce sont les mots de l'époque. On va avoir ensuite à mes frères Touareg. Mais ça, c'est après la conversion de 1908, vous voyez. Mais quand il arrive, alors l'évangile raconté aux pauvres nègres du Sahara, c'est bon.
Avec les lunettes d'aujourd'hui, évidemment,
c'est plus possible.
C'est très très choquant, bien sûr.
C'est plus possible. Et à l'intérieur de ces ouvrages, les méditations des psaumes, les méditations de l'évangile de saint Matthieu, les méditations sur les fêtes liturgiques, on s'aperçoit que finalement, il médite avec son crayon, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de paraphrases des textes pour essayer de trouver le point qui sera le point de dialogue avec quelqu'un qui ne connaît rien. Au Christ.
En tous les cas, pour revenir à sa vie quotidienne, Christophe Maury, on comprend très bien que le frère Michel est craqué au bout de plusieurs mois. Ouais. Parce que les conditions sont infernales, sont impossibles. On dort habillé, oui. On ne se lave pas manifestement beaucoup. On peut rester des heures debout à prier ou à genoux. Enfin, c'est une vie... Mais d'ailleurs, il est totalement émacié quand il découvre ce frère qui l'accueille. Hein. Et lui-même est très fatigué. Charles de Foucault est extrêmement fatigué.
Extrêmement fatigué. Et au lieu d'accueillir ce frère pour créer une communauté, il va le prendre pour son larbin.
Oui, son larbin, et il se comporte en militaire à ce moment-là.
Hein. Et frère Michel va partir officiellement pour raison de santé, c'était ce qu'on disait à l'époque, mais il laissera une lettre et qu'on lira après sa mort en disant que c'était un type épouvantable.
Une question concernant précisément l'armée. On a pu dire, il est vrai que Charles de Foucault a quand même souvent été aidé par les militaires dans son installation.
Hein, tout le temps.
Hein, même protégé, etc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il était aussi un agent de renseignement?
Alors, plusieurs points nous le disent. Vous savez, quand il est à la Sécrème, qui est un pic rocheux extraordinaire, où il y a toujours deux frères de Foucault qui sont là-bas en permanence, et ça domine trois vallées. Et vous voyez à ce moment-là très bien les déplacements des Touaregs dans les différentes vallées, mais vous pouvez le signifier. Alors, est-ce que c'est d'être dans le renseignement que de dire à un militaire qui passe, vous ravitailler, tu sais, j'ai vu des Touaregs hier à 4h du matin qui passaient avec des chameaux. Est-ce que c'est de faire du renseignement ? Un peu plus loin, lorsqu'il écrit quand même à La Périne ou à un certain nombre de contacts à Alger, il écrit en langage chiffré, en langage codé.
Oui, c'est vraiment le militaire, là.
Donc là, on a quelque chose, oui, si vous voulez, qui pose problème. Enfin, ça ne pose pas problème. Mais on fait toujours du renseignement quand on raconte quelque chose à un copain. Est-ce qu'il était espion? Ça, je n'en sais rien, je ne me prononcerai pas. Mais il a fait du renseignement, évidemment.
En tous les cas, la gloire militaire, c'est ce que vous soulignez, Christophe Maury, il n'y était pas insensible. Et même, alors c'est quand même très choquant, quand il y a des batailles hein, avec des bandes hein, qui se rebellent, eh bien, les morts ne le choquent pas du tout. Il va dire, il y a eu tant de morts du côté français, et puis pour les autres, ben oui, il y a eu beaucoup de morts, mais en gros, c'est du beau travail, quoi.
C'est le combat qui est intéressant.
C'est quand même un religieux. Comment un religieux peut se prononcer de cette
Alors,
façon.
Ce qu'on disait tout à l'heure sur les pauvres nègres du Sahara, c'est l'époque. C'est l'époque, mais il est en effet Saint-Syrien jusqu'au bout. Vous savez, à la fin, il montait les couleurs bleu, blanc, rouge sur son borge le matin et il les baissait le soir. C'était un ermitage, c'est pas une caserne. Mais il continuait à vivre dans l'ermitage comme une caserne et dans la caserne comme à l'ermitage.
Et la guerre de 14, effectivement, s'il avait pu, vous le soulignez tout à l'heure, s'il avait pu la vivre...
Ah ben oui, pour retrouver l'Alsace, le paradis perdu.
Le paradis perdu. Est-ce qu'il y a des paradis perdus chez Charles de Foucault? Et là, je pense à son enfance, à ses parents, précisément, avec lesquels il était probablement très heureux, mais qu'il perd très jeune, puisqu'il va être éduqué par son grand-père.
Colonel de Morlaix.
Voilà, son grand-père maternel.
Oui.
Voilà.
Alors, ses parents, son père est dans les eaux et forêts, il est pas très présent, on le sent pas très présent. Sa mère, en revanche, il y a beaucoup, beaucoup d'amour avec sa mère et avec sa sœur Marie, dite Mimi, qui épousera Raymond de Blic. Donc, c'est une famille unie qui va être désunie par la mort parce que elle va mourir de névralgie 6 mois après son mari, qui sera mort de ramollissement du cerveau.
Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque ?
Alzheimer. Et qui sera dans la clinique du docteur Blanche. Alors donc, il sera élevé par le colonel de Morlaix, qui est un type formidable, qui va l'ouvrir à la lecture, à la culture, au bon vin aussi. Il y a deux bibliothèques, il y a une cave à vin et la bibliothèque chez Morlaix. Et Foucault dira « j'ai abusé des deux ». Et Morlaix s'était remarié, il avait été veuf, il s'est remarié avec une femme plus jeune qui va les élever, les deux enfants, Charles et Marie, merveilleusement. Donc,
Dans une aisance financière.
Donc, paradis perdu, l'Alsace, la petite enfance. Paradis perdu, Nancy, l'adolescence, d'une certaine façon. Ensuite, non. Saint-Cyr, non. Saumur, non.
Non, comment ça ? Non.
C'est pas un paradis perdu, c'est pas aussi proche de son cœur,
c'est un âge déjà adulte,
de son affect. Ouais. En revanche, le grand paradis perdu, c'est Marie de Bondy.
Sa cousine, à qui il écrit tout le temps.
Mais c'est un amour fou.
Il l'aime.
Il l'aime, profondément. Le 15 janvier, il quitte à 17h Marie de Bondy, et tous les 15 janvier, il lui écrira une lettre en disant « J'étais dans vos bras et je vous voyais l'horloge qui allait sur 17h, le moment où nous allions nous quitter définitivement. » Quand il prend le bateau, il dit « l'eau s'ouvrait et se refermait derrière, un peu comme une couture pour nous inciter à ne plus jamais nous revoir. »
Vous voulez dire que c'est parce que c'était sa cousine qui ne pouvait pas l'épouser, qu'il aurait pu, qu'il serait rentré dans les ordres, dans la vie religieuse ?
Elle avait 7 ans de plus, elle était mariée. C'est pas la cousine Germaine avec qui on joue au docteur. Non, c'est une histoire... Mais ça a été un amour fou que vous n'imaginez pas. Les lettres à Marie de Bondy, ce sont des lettres d'amour, vraiment. Et la réponse est vraie. Elle a une admiration folle pour son cousin. Elle va l'aider jusqu'à la fin de sa vie.
Elle meurt avant lui ou après lui ?
Oh, elle meurt très âgée, bien après lui. Oui.
Bien après lui.
Et elle a toutes les archives dans le château de Bondy qui va brûler.
Donc
on a des archives, la famille détient des archives, mais toutes les archives, l'espèce de musée.
La correspondance.
Entre autres, enfin, on a beaucoup de correspondance, mais ouais. On peut s'imaginer que le musée Charles de Foucault était dans le château incendié de Marie de Bondy.
Alors, Christophe Maury, l'héritage de Charles de Foucault, est-ce que cette famille spirituelle...
Il est énorme.
Famille spirituelle, les petits frères et les petites sœurs de Jésus, par exemple.
Oui,
il n'y a pas que.
Il y en a 23.
Oui, 23. Vous voulez dire famille spirituelle.
Oui, fraternité séculière, Charles de Foucault. Solidalité, Charles de Foucault. Fraternité sacerdotale, Jésus Caritas. Petit frère de l'Évangile, Institut des frères serviteurs. Petit frère de la Croix, on ne va pas toutes les dire. Petite sœur de Jésus, petite sœur de Nazareth, etc. C'est incroyable. C'est-à-dire que nous allons avoir, en effet, dès la mort de Charles de Foucault, tout de suite, je l'ai dit en début d'émission, 1921, la grande biographie par René Bazin, qui a été écrite sur souscription. De même, souscription pour faire l'appel du silence avec Jean Yonel, sociétaire de la Comédie française, dans le rôle de Charles de Foucault, en 1923. Tout ça va donner énormément
aujourd'hui,
la légende. Si
aujourd'hui.
Vous voulez. Et à ce moment-là, comme ça va créer des vocations de missionnaires, je vous racontais mon passé scout, c'est assez drôle, mais surtout, il y a des tas de communautés qui vont se créer pour aller au plus près des pauvres. Et il ne s'agit plus d'évangéliser en balançant du catéchisme, il s'agit d'être dans l'amitié, la pauvreté et l'exemplarité. Vous savez, un riche donne tout ce qu'il a, un pauvre donne tout ce qu'il est.
Belle formule.
Et c'est ça, Charles de Foucault.
Eh bien, écoutez, je propose que l'on termine sur cette belle formule. Merci, Christophe Maury. Donc, je rappelle le titre de votre biographie, Charles de Foucault, Pèlerin de l'Éternel, et c'est publié chez Pygmalion. Merci.
Merci beaucoup. Thank you.
Et nous poursuivons notre émission sur la vie de Charles de Foucault, l'impact de ses 11 années dans le Grand Sud algérien sur le dialogue islamo-chrétien avec le nouveau directeur du Service national pour les relations avec les musulmans, le frère Jean-François Bourg, nommé début mai par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Frère Jean-François Bourg, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes dominicain depuis 30 ans. Vous avez vécu 10 ans au Caire, vous étiez donc un membre de l'IDEO, l'Institut d'études orientales donc des Dominicains au Caire. Et vous êtes très engagé par ailleurs dans le dialogue islamo-chrétien, et cela au niveau du Grand Est et puis au niveau européen. Alors une première question, quel apport selon vous la spiritualité de Charles de Foucault et sa vie aussi bien sûr auprès des Touaregs ?
Moi, ce que j'aimerais mettre en avant, en tous les cas, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire, c'est une vie très riche, hein, et d'ailleurs, c'était un homme aussi assez complexe, mais ses évolutions sont intéressantes. Mais ce que j'aimerais d'abord mettre en avant, c'est la complexité du contexte dans lequel Charles de Foucault a vécu, et on le sait tous, hein, c'est un contexte de colonisation, notamment quand il vit en Algérie, et dans ce contexte sociopolitique qui est, on pourrait dire assez défavorable en fait, parce que Charles lui-même, hein, le frère Charles de Jésus, comme on devrait l'appeler, est bien malheureux d'une certaine façon de ce mélange entre christianisme et entreprise coloniale. Le frère Charles de Jésus a néanmoins réussi, je crois, à inscrire un témoignage lumineux de fraternité profonde auprès des populations qui l'ont accueilli d'ailleurs, hein, et dont il s'est fait, d'une certaine façon, adopter.
Et donc aujourd'hui, est-ce que la figure de Charles de Foucault et sa vie, précisément, peut être un témoignage pour le dialogue entre chrétiens et musulmans ?
Oui, je crois, parce que cet homme si profondément attaché à ses racines, je dirais ses racines françaises, hein, pour le dire simplement, un homme si profondément attaché à sa culture, à son pays, à la civilisation de la France, et à sa foi, a été en fait vraiment capable de rencontrer l'autre, c'est-à-dire de se laisser toucher par cette altérité des populations, non seulement en Syrie quand il était là-bas, mais aussi en Terre Sainte, et puis plutôt particulièrement par les Touaregs au milieu desquels il a vécu, hein. Et il s'est laissé toucher alors qu'il était certainement parti dans un premier temps pour le rapporter d'une certaine façon, on va le dire comme ça, une certaine civilisation et d'une certaine façon aussi la foi. Hein,
une la idée foi civilisatrice, c'est ça, à l'époque, c'était effectivement...
Tout à fait. Mais Charles fait en réalité une sorte de révolution intérieure et petit à petit, il se rend compte que... Il est très important qu'il reconnaisse qu'il ne peut pas, d'une certaine façon, venir comme ça convertir les Touaregs. Et il le dit lui-même en 1905, hein, « Je ne suis pas venu ici pour convertir les Touaregs, mais pour essayer de les comprendre. » Et donc cette révolution intérieure va le conduire à s'installer et à essayer de témoigner surtout par l'exemple, comme il le dit, hein, par la bonté même de Jésus, dont il dit qu'il faut l'imiter et qu'il faut essayer de rendre cette bonté palpable en fait aux gens qu'on rencontre.
Oui, par une vie effectivement dans l'extrême dénuement et humilité.
Oui, ça c'est très intéressant parce que il y a chez Charles de Jésus, à mon avis, quelque chose un peu de François d'Assise. À la fois cette quête de l'absolu, hein, dans un dépouillement radical, et ce dépouillement, moi je crois que comme chez saint François. C'est aussi ce que j'appellerais l'abandon de la tentation de toute puissance, en fait. On met souvent en avant la vertu de pauvreté, mais je crois qu'il faut aller assez profondément dans ce que cela implique, c'est-à-dire renoncer à une forme de toute puissance, renoncer à s'imposer. Et donc, chez Charles de Foucault, ce dépouillement, cette grande radicalité, c'est prendre la dernière place, et de fait, ne surtout pas vouloir faire ce que, encore une fois, l'entreprise coloniale peut-être a fait, c'est-à-dire voilà, imposer une présence, d'une certaine façon, par la force.
Dernière question, frère Jean-François Bourg. concernant votre nouvelle mission. Donc, vous êtes le nouveau, tout nouveau directeur du Service national pour les relations avec les musulmans. Vous êtes très impliqué, je le disais, dans les relations interreligieuses pour le Grand Est et aussi au niveau européen. Comment voyez-vous votre nouvelle fonction ?
Écoutez, j'espère être un témoin de fraternité, pour tout dire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le texte du Saint-Père Fratelli Tutti, sur lequel j'essaye de faire réfléchir d'ailleurs un certain nombre de groupes à l'occasion de mes rencontres. J'espère être un témoin de cette fraternité. Chez Charles de Foucault, la fraternité s'est substituée à la prédication, hein. Il faut bien le dire. Et ceci parle plutôt beaucoup aux dominicains que je suis, parce qu'à la fondation de notre ordre, les premiers frères dominicains ne parlaient pas de couvent, mais ils appelaient les lieux de vie des frères des saintes prédications. C'est-à-dire que la fraternité, c'est elle qui témoigne en réalité. Et la fraternité, pour reprendre un peu une expression de Christian Salençon, c'est l'expression du mystère christique. C'est vraiment l'expression d'un mystère du salut où les liens entre les êtres humains, très différents que nous sommes, sont réparés. Et je crois que dans la société française, comme dans le monde entier, chrétiens et musulmans sont appelés à donner ce témoignage, et j'espère qu'ils progresseront de plus en plus, qu'il est possible d'être bien relié tout en étant très différent.
Frère Jean-François Bourg, merci pour ce témoignage et puis bon vent pour votre nouvelle mission. Merci.
Merci beaucoup.
On a donc ici les portraits des trois premiers grands fondateurs des missions étrangères. Vous avez donc ici Mgr Lambert de Lamotte, qui était originaire de Rouen, qui partira le premier avec 2 ans de voyage pour atteindre Ayutthaya. Il y a également Mgr Palu, et puis le troisième, Mgr Ignace Cotolendi, qui lui mourra finalement en Inde lors de son premier voyage complètement exténué de l'épreuve qu'il a pu endurer.
Et on part à présent au royaume de Siam, l'ancien nom de la Thaïlande, avec l'exposition qui se tient actuellement rue du Bac au siège des missions étrangères de Paris, intitulée « L'Évangile au pays du sourire », qui retrace 3 siècles et demi de présence des MEP en Thaïlande. C'est en effet au royaume de Siam qu'a commencé en 1662 la grande aventure évangélisatrice en Asie de la Société des missions étrangères, avec l'arrivée des premiers missionnaires. Aujourd'hui, les MEP comptent 155 prêtres dans 13 pays d'Asie et de l'océan Indien. Secondés par une centaine de volontaires laïcs envoyés chaque année auprès d'eux, ils contribuent à former des séminaristes et des prêtres étudiants. Mais revenons à ce XVIIe siècle. Les noms des fondateurs vont s'inscrire dans la mémoire des MEP. François Palu, Pierre Lambert de Lamotte, Ignace Cotolendi, Louis Lanou. C'est donc cette histoire que raconte l'exposition « L'Évangile au pays du sourire » avec des documents d'archives rares, des lettres, des objets, peintures, maquettes. Exposition donc commentée par l'historien de l'art Jacques-Charles Gaffiot, commissaire de l'exposition avec Éric Henry des Missions étrangères de Paris.
L'idée était donc tout simplement de partir, de la vitalité aujourd'hui de l'Église de Thaïlande. Vitalité finalement qui n'est pas tellement numérique, puisqu'il n'y a que 400 000 catholiques, si vous voulez, dans un pays de 67 millions d'habitants, mais une vitalité particulièrement dynamique, dans la mesure où l'Église catholique de Thaïlande s'occupe de très nombreuses écoles, de très nombreux hôpitaux. Pour vous donner une idée, par exemple, c'est le Collège de l'Assomption à Bangkok qui forme 2 à 3 000 élèves, mais parmi lesquels toute la classe dirigeante de Thaïlande est présente. Et aujourd'hui encore, une grande partie, si vous voulez, de la haute administration ou même les membres du gouvernement ont été formés au Collège de l'Assomption.
Les missionnaires des missions étrangères de Paris sont arrivés après les jésuites, installés eux au royaume de Siam au début du XVIIe siècle. Jacques-Charles Gaffiot vient là souligner la différence de méthode d'évangélisation entre les jésuites et les missionnaires des MEP.
D'une manière un peu générale, on pourrait dire que les jésuites veulent convertir par le haut. C'est leur méthode de conversion. On va convertir le roi, les ministres, et puis le peuple, finalement, on ne s'en occupe pas. Il suivra nécessairement, même avec un petit peu de... s'il est forcé. Pour les missions étrangères, l'esprit est totalement, radicalement différent. Il s'agit de convaincre le cœur par l'exemple. On va convaincre, effectivement, à l'aide d'exemples. Et c'est ainsi que les engagements caritatifs vont avoir une importance considérable. Là, dans la vitrine, on présente un des premiers documents. C'est toujours Monseigneur Lambert de Lamothe qui écrit aux missions étrangères, écrit donc à Paris, pour leur dire la nécessité de recevoir les fonds nécessaires qui permettront la création d'hôpitaux, qui permettront la création d'écoles. Et Monseigneur Lambert de Lamothe, dont on reparlera tout à l'heure, lorsqu'il arrive enfin à Ayutthaya, après 2 ans de voyage, la première chose qu'il fait, il fait une retraite tout seul, une quarantaine de jours. Et ensuite, lorsqu'il a pris un peu conscience de la mission qui doit être la sienne, la première chose qu'il fait, c'est aller visiter les prisonniers thaïlandais, qui ne sont pas du tout chrétiens, et qui étaient en quelque sorte les rebuts de la société.
Le royaume de Siam, où arrivent les missionnaires des missions étrangères de Paris dès 1662, est un pays bouddhiste. Et comme le souligne Jacques-Charles Gaffiot, cette arrivée ne rencontre pas d'opposition.
Non, il n'y a pas d'opposition. On est dans, c'est le pays du sourire. Hein. C'est l'évangile au pays du sourire. Les gens sont accueillis d'une manière très convenable. Cependant, si vous voulez, les conversions sont rarissimes. Ils n'ont aucune envie de se convertir. On les accueille, on les écoute, on leur sourit. On est heureux de pouvoir fréquenter leurs hôpitaux, leurs écoles. Mais les conversions seront très, très peu nombreuses. Elles arriveront, bien évidemment. Mais il n'y a pas le roi, à l'époque, le roi Pranaraï, est tout à fait disposé à les écouter. D'autant que Monseigneur Lano a appris le siamois. Ce sont des occidentaux, alors ils ont des petits rudiments de médecine, et le roi Pranaraï, voyant son frère en très mauvais état de santé, demande à Monseigneur Louis Lano de venir le soigner. Alors ce sont des remèdes de bonne femme, j'allais dire, mais qui sont efficaces par rapport à une absence quasi totale, si vous voulez, de pharmacopée, et donc ça sera, j'allais dire, un accueil très bienveillant.
Monseigneur Louis Lano, premier vicaire apostolique du Siam à Ayutthaya, alors la capitale, est, comme vient de le rappeler Jacques-Charles Gaffiot, une autre grande figure des missions étrangères de Paris au royaume de Siam. C'est lui qui notamment a traduit les évangiles. Sœur Simona, carmélite thaïlandaise spécialiste de l'histoire du catholicisme en Thaïlande et de Monseigneur Lano, rappelle avec l'historien Jacques-Charles Gaffiot que ce religieux est arrivé en cachette par voie terrestre, à l'insu des Portugais, qui dominaient alors cette partie du monde depuis le traité de Tordesillas en 1494.
Il arrivait par la voie terrestre. Il ne faut pas qu'il trouve les Portugais.
Il ne fallait pas qu'il trouve les Portugais.
Donc il faut qu'il échappe les Portugais.
Vous allez comprendre tout à l'heure, devant un grand planisphère, si vous voulez, un grand portulan, on voit donc le monde coupé en deux avec le traité de Tordesillas qui a été signé par le Saint-Siège, le roi d'Espagne et le roi de Portugal, qui se partagent en deux le monde. Et donc d'un côté, du côté de l'Est, de l'Afrique, de l'Asie, ce sont les Portugais qui ont donc une hégémonie totale. De l'autre côté, ce sont les Espagnols. Et par conséquent, lorsque les missions étrangères, à la demande de la propagation de la foi, du Saint-Siège, veut envoyer des missionnaires, eh bien, il se heurte précisément au traité de Tordesillas, qui, en principe, obligerait ces missionnaires envoyés par le Saint-Siège donc de se plier à la juridiction portugaise. Or, le Saint-Siège veut échapper à cela, et donc ces premiers missionnaires sont obligés d'arriver presque en cachette et par voie terrestre, pour éviter de prendre des bateaux portugais, naturellement, parce qu'il n'y a que cela qui navigue dans ces endroits. Et par conséquent, ils sont obligés de partir à pied. Ils traversent tout de même la Méditerranée en bateau. Ils vont traverser l'océan Indien en bateau. Mais autrement, tout le reste se fait à pied et dans des conditions absolument abominables.
Les relations diplomatiques avec le Saint-Siège, mais aussi avec le Royaume de France, tiennent une grande place dans cette exposition. Et d'ailleurs, l'affiche et celle du catalogue et la peinture représentant des diplomates siamois lors de leur venue en France en 1686, où ils seront reçus au château de Versailles par le roi Louis XIV. Relations qui seront rompues fin XVIIe suite à un coup d'État. Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour la reprise des relations diplomatiques. Avant le voyage des diplomates siamois en France, une première expédition mission s'était soldée par un malheureux échec, le naufrage le 6 septembre 1681 du Soleil d'Orient, un navire de commerce construit par la Compagnie des Indes orientales qui transportait, outre l'ambassade de Siam envoyée par le roi Pranarai, toute une cargaison d'étoffes, d'épices, d'or, d'argent et de pierres précieuses. La maquette du navire trône au milieu de l'exposition.
Le roi Pranarai aura l'intention, si vous voulez, puisque ces vicaires apostoliques sont français, de prendre quelques contacts avec la France. Et une des premières ambassades va monter sur ce bateau, le Soleil d'Orient, qui va sombrer au large du Cap-Vert, emportant bien sûr les ambassadeurs, les missionnaires. Et dans ces cas, il y avait un petit éléphant qui devait être offert à Louis XIV. Et le malheureux animal est naturellement au fond de l'eau lui aussi.
Magnifique maquette qui vient du musée de la marine.
Non, magnifique maquette qui a été offerte aux missions étrangères par la conférence épiscopale de Thaïlande. Vous voyez que les rapports sont vraiment au beau fixe.
Et c'est donc en juin 1686 qu'arrive la délégation diplomatique du Siam qui doit rencontrer le roi Louis XIV. Le récit de Jacques Chalgraffio.
Alors il y a 6 mois de navigation, il arrive à Brest et là il y a une foule considérable qui attend ses ambassadeurs, ils sont reçus d'une manière absolument princière et Louis XIV vient d'être opéré de la fistule. Par conséquent, il faut retarder la visite parce qu'il n'est pas en bonne santé. Donc on fait tout un circuit par les châteaux de la Loire pour regagner Versailles, on les fait attendre. À l'entrée de Paris, ils entrent dans Paris. Selon les usages, si vous voulez, ces ambassadeurs, qui sont des gens quand même très bien élevés, ne veulent avoir aucun rendez-vous avant le premier rendez-vous, le principal, avec le roi Louis XIV. Aussi, refusent-ils de sortir. Il faut une petite exception, ils vont tout de même à Notre-Dame et ils sont séduits par une procession qui se déroule à Notre-Dame, mais ils rentrent chez eux dans un hôtel qui a été réservé, un hôtel particulier qui leur a été réservé. Donc le jour de l'ambassade, c'est un formidable déploiement de protocole de faste qui se déroule à Versailles. Il y a 2000 courtisans qui sont dans l'escalier des ambassadeurs et puis qui se pressent dans la galerie des glaces. Et Louis XIV est assis au fond de la galerie des glaces sur tout son trône d'argent, etc., tout le mobilier d'argent. Il se prosterne, ils offrent des présents et c'est véritablement un très très grand triomphe.
Manuscrits, objets, peintures, l'IRFA, l'Institut de recherche France-Asie, créé par les missions étrangères de Paris en 2019, nourrit l'exposition « L'Évangile au pays du sourire ». L'IRFA est non seulement un fonds patrimonial pour la mémoire des MEP, mais aussi pour la Thaïlande.
Tout ce qui va toucher les archives qui vont rester en Thaïlande, dans le royaume de Siam, tout sera détruit en 1767, lorsque la capitale, Ayutthaya, sera investie par les Birmans, qui la brûleront, la détruiront presque de fond en comble, si bien que toute la mémoire, en quelque sorte, des Siamois, est aujourd'hui complètement perdue, à l'exception de quelques rares documents, et par conséquent, les archives des missions étrangères ont une réelle importance, naturellement, pour la Thaïlande aujourd'hui, pour l'histoire de la Thaïlande.
Et ce travail patrimonial des missions étrangères se poursuit, comme l'explique Éric Henry du service d'animation culturelle des MEP, qui, avec Jacques-Charles Gaffiot, a conçu et organisé l'exposition « L'Évangile au pays du sourire » qui se tient jusqu'à la fin juin, rue du Bac, aux missions étrangères de Paris.
On est en train, aux missions étrangères de Paris, de faire un peu le recollement des collections de la maison. On a retrouvé dans les caves des peintures qui s'y étaient égarées de cette façon. Et puis donc on les a fait restaurer. Et puis vous les avez ici présentées au grand public, donc avec les couleurs retrouvées, peut-être les couleurs d'origine, mais en tout cas des belles couleurs.
Dans les caves des MEP, il y a encore beaucoup de peintures qui attendent d'être restaurées et d'autres documents qui attendent d'être restaurés.
J'espère qu'il y en a de moins en moins, qu'elles sont bien au chaud, bien réparties dans les salles des archives.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.